Et nous lisons ce matin les textes du jour. Tout d'abord, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, les versets 31 à 34. Bientôt, déclare le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme celle que j'avais conclue avec leurs ancêtres quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Celle-là, ils l'ont rompue, et pourtant c'est moi qui étais leur maître, dit le Seigneur. Mais voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël, déclare le Seigneur. J'inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, mais dans leur conscience, je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun d'eux n'aura plus besoin de s'adresser à ses compagnons, à ses frères, pour leur enseigner à me connaître, car tous me connaîtront, déclare le Seigneur, tous, du plus petit jusqu'au plus grand. En effet, je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Ensuite, dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, les versets 27 à 32. Maintenant, mon cœur est troublé, et que dirai-je? Dirai-je, Père, délivre-moi de cette heure de souffrance? Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, donne gloire à ton nom. Une voix se fit alors entendre du ciel, « Je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai de nouveau. » La foule qui se trouvait là et avait entendu la voix disait, « C'était un coup de tonnerre. » D'autres disaient, « Un ange lui a parlé. » Mais Jésus leur déclara, « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais pour vous. » C'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant, le dominateur de ce monde va être chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et puis ensuite, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, les versets 7 à 10. Le Christ également ne s'est pas accordé lui-même l'honneur d'être grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu qui lui a déclaré, « C'est toi qui es mon fils, à partir d'aujourd'hui je suis ton père. » Et ailleurs il dit aussi, « Tu es prêtre pour toujours, dans la tradition de Melchisédek. » Le roi de justice. Durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grandes crises et de larmes. Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu la source d'un salut éternel pour tous, pour tous ceux qui lui obéissent. En effet, Dieu l'a déclaré grand prêtre dans la tradition de Melchisédek, ce qui veut dire roi de justice. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au psaume 68b, les strophes 1, 3 et 5. tel un brouillard qui se déchire et laisse émerger une cime, ce jour nous découvre l'indicible, un autre jour que l'on devine. Tout rayonnant d'une promesse, déjà ce matin nous entraîne, figure de l'aube éternelle, sur notre route quotidienne. Vienne l'Esprit pour nous apprendre à voir dans ce jour qui s'avance l'espace où mûrit notre attente du jour de Dieu, notre espérance.2018 est une année riche pour les mémoires. Il y a 100 ans, se terminait une guerre qui avait opposé des nationalismes mortels et contribué à ce que certains avaient qualifié de suicide de l'Occident. Un suicide auquel seuls quelques grands industriels avaient échappé, puisque leurs profits s'étaient massivement envolés, pendant que d'autres étaient sacrifiés sur l'autel de la religion, du commerce et de l'industrie. Seuls quelques chrétiens, rapidement châtiés, avaient dès Noël 14 résisté à cette folie avant que d'autres ne les suivent, en célébrant la venue du prince de la paix au milieu des ruines et des cadavres mutilés, dans une communion fraternelle qui abolissait les frontières. Plus près de nous, il y a 50 ans, un autre témoin de la justice et de la fraternité mourait, assassiné, pour avoir cru que l'Évangile viendrait à bout de la religion, de la race et de la discrimination. Martin Luther King, pour le nommer, inscrivait son nom dans la longue liste des témoins d'un rêve qu'il avait fait, nourri par un texte qui alimentait sa vie de pasteur baptiste non-violent, pacifiste, militant de l'égalité des droits et de l'éradication de la misère économique et sociale. Il y a 50 ans, c'était aussi l'année 68, abondamment commentée en France, où une jeunesse privée d'horizon et une classe ouvrière inquiète, pressentant le pire, affichaient leur refus du non-sens d'une réalité sociale envahissante qu'ils résumaient sous les termes déjà répandus de métro, boulot, dodo. Une réalité à laquelle, finalement, nous nous sommes bien habitués, comme la grenouille qui, plongée dans une eau tiède, ne réagit plus lorsque l'eau bouillonne et, finalement, la tue. On a tout dit sur 68. Il y a les nostalgiques, les attardés, les contempteurs qui y voient l'origine de tous nos maux, Pour ma part, je garde gravé dans ma mémoire un des derniers slogans inscrits sur les murs lorsque les stations d'essence ont recommencé à fonctionner et que toutes choses se sont remises en place. On a pu lire et parfois entendre « L'essence nous a dérobé l'existence ». Comme si, derrière ce clin d'œil un peu sartrien, certains, dans une intuition prophétique, avaient perçu à quel point nous allions être petit à petit enfermés dans les serres d'un divin marché, toujours plus consommateur d'énergie, qui consumerait nos existences, nos vies, dans un non-sens difficilement réversible. Et puis, il y a 50 ans, mourait Karl Barth, le grand théologien protestant du XXe siècle, néo-orthodoxe pour les ultralibéraux, libéral pour les purs calvinistes, en tout cas admiré et reconnu par des penseurs aussi divers que Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer ou les théologiens de la libération. Théologien de la révolution de Dieu contre celle de Lénine, mais aussi dénonciateur de la dérive idolâtre d'une société occidentale minée par le culte de la réussite et des œuvres, de lui, je ne souhaiterais retenir que deux choses. Il croyait en la parole humaine, la prédication, qui enracinait dans la vie les gestes, les mots de Jésus-Christ, signifiait toujours un appel exigeant pour mettre en crise toutes les certitudes confortables, les autorités convenues, les pouvoirs orgueilleux. Et dans le même mouvement, il croyait que si l'Église n'était qu'un pauvre instrument pour dire cette parole, dans sa persévérance fidèle, elle avait à faire vivre la juste réconciliation de tous avec tous, dans le temps, de telle sorte que s'inaugurent toujours des espaces de paix et de justice, prémices d'une communion dont aucune parcelle de la création ne serait exclue. Alors aujourd'hui, ce matin, cette mémoire, ces jubilés que nous célébrons, sont en dialogue avec ces temps immémoriaux qui nous ont laissé ces traces, ces textes, qui se présentent à nous sans que nous les ayons choisis. Des textes qui sont le miroir aux multiples facettes de nos vies d'aujourd'hui. Cette Bible, en fait, une bibliothèque, dont nous avons décidé de faire notre livre de chevet, se présente à nous et questionne notre présent comme elle a questionné les hommes et les événements qui nous ont précédés et nous ont construits. Alors, commençons par Jérémie. Jérémie, le prophète qui, au milieu des ruines, annonce la fin de la peur originelle, vous savez, celle qui prend aux tripes Adam lorsque la culpabilité l'envahit. « J'ai eu peur, dit-il, à peine sorti du dessein de Dieu. » Cette peur, non seulement est mauvaise conseillère, mais elle a ouvert les portes à cette religiosité envahissante qui conduit l'humanité à sans cesse tenter de la juguler par des artifices de toutes pièces, à l'instar du veau d'or, et par lesquels elle espère s'en affranchir. Ces artifices, on les trouvera aussi bien dans les mythes anciens et les rites sacrificiels qui les accompagnent, que dans les idéologies modernes, ces religions séculières, qui, derrière leurs promesses abusives, maintiennent l'humanité dans un asservissement étouffant. Jérémie a bien compris que tant qu'il y aura des hommes, plutôt que la liberté, ils choisiront l'esclavage. L'esclavage des lois, des prescriptions, l'esclavage de la rétribution et du marchandage, fixé par des tablettes rigides qui dictent brutalement les codes d'une vie commune où la peur règne. Mais Jérémie annonce qu'au-delà de cette rigidité cadavérique, il y a un appel insistant, qui jamais ne se lasse. Cet appel, qu'on nomme parfois Dieu, ne laisse jamais l'homme tranquille. Le sort de sa léthargie funeste, mais aussi lui ouvre une brèche dans ses murs sécurisants, en lui laissant entrevoir autre chose, en lui offrant une autre vie, la vraie vie, celle où chacun dans son cœur et sa conscience, comme le traduit la Bible en français courant, peut être assuré que tôt ou tard, demain certainement, aujourd'hui peut-être, il est possible de choisir la vie contre toutes les atteintes à la paix, à la liberté, à la justice. Jérémie proclame que l'histoire n'est pas un destin tragique, fait de fautes et de punitions, mais un accomplissement persistant, persévérant, où les frontières sont abolies, les inimitiés anéanties, les injustices réparées, les dominations chassées de leurs trônes illusoires. L'annonce faite à Jérémie, qu'il reprend et transmet, c'est que l'humanité n'a pas besoin de se tourner vers un au-delà religieux ou métaphysique pour trouver une raison de vivre, un oubli de la peur, mais qu'elle a dans sa singularité même de quoi entendre par elle-même, en elle-même, l'appel qui toujours la remet debout dans l'adversité. Toujours, elle a la possibilité de rompre la désespérance qui la mine. Toujours, elle trouvera en elle les ressources humaines, non pour asservir, mais pour résister, s'indigner, s'insurger et mettre en œuvre la bienveillance, le souci de l'autre, la justice et la paix. Quel contresens d'avoir inventé le mot « Jérémiade » pour qualifier les admonestations et exhortations du prophète, comme s'il s'agissait de gémissements stériles. Jérémie nous appelle à la liberté responsable, fondée sur une sortie, une évasion hors de nos prisons, une libération de nos chaînes, qu'il signale d'ailleurs à la fin de son témoignage par ce symbole fort où l'on voit le roi d'Israël prisonnier être libéré et retrouver une place de choix. Aux captifs, la liberté, voilà le maître mot que Jérémie nous offre et nous propose comme avenir. Cette promesse, cet avenir annoncé, le second texte issu de l'évangile de Jean non seulement en précise les contours, mais surtout nous affirme que désormais, nous sommes entrés dans ce monde de liberté. C'est tout le paradoxe de la pensée johannique. Dans ce monde assombri, la lucidité, la lumière projetée sur toute chose, toute réalité, sur chacun de nous, nous autorise par-delà les aléas nuisibles comme les obscurités mensongères, à croire qu'une parole vive peut démasquer les menteurs, qu'un regard clair peut désarçonner les désespoirs et qu'un geste juste peut abattre les dominations. Tôt ou tard, chacun de nous peut être relevé. Tôt ou tard, les petits comme les grands tyrans sont jetés à terre. Leur sort est déjà scellé. Tôt ou tard, les peuples peuvent soulever les jougs qui les écrasent. Ainsi, dans ce passage de l'évangile de Jean, nous sommes non seulement dans l'imminence, mais dans la présence même de la réalisation de ces promesses. Le passé de la prophétie, la présence, la proximité du ministère de Jésus, l'avenir envisagé, entrent en collision, deviennent contemporains. Cela évoque pour moi cette parole de Paul, « Le temps est raccourci ». Et au passage, permettez-moi de faire une allusion, bien que je veuille me garder de tout concordisme, faire une allusion aux plus récents travaux de nos astrophysiciens, pour qui le temps qui s'étire n'est qu'une illusion construite par nos savoirs limités. Ainsi, pour l'évangéliste, le royaume n'est pas un accomplissement futur, ni une apocalypse catastrophique à redouter, ni d'ailleurs une origine sans tache, un paradis originel perdu. Le temps du royaume est en train de s'accomplir, il vient même de s'accomplir sous nos yeux. Dans ce temps qui se contracte, chacun de nous est aujourd'hui même contemporain de cette chasse au mal qui met un terme à la puissance du dominateur, à toute domination. Chacun de nous est contemporain de cette présence vivante de Jésus-Christ qui voyait Satan tomber du ciel au fur et à mesure que ses disciples lui rapportaient les effets de sa parole. Il y a chez nous, chrétiens de longue histoire, protestants en particulier, une propension, une tentation même à confiner, à clôturer ces temps apostoliques dans un passé enfermé, dans le principe mal compris du sola scriptura. Comme si, après ce temps béni de l'œuvre de Jésus-Christ et la rédaction des textes qui en témoignent par tous ces récits de libération, il n'y avait plus qu'à attendre le retour du Christ en gloire pour que de nouvelles pages de la bonne nouvelle s'écrivent. Mais cela, l'évangile de Jean le contredit formellement. Dès aujourd'hui, le Christ revient. Le retour du Christ n'est pas un lendemain lointain. Il est une actualité que beaucoup voudraient refouler parce qu'elle dérange, mais qui pourtant, comme une présence vivante, insistante, ne se lasse pas de nous appeler à la confiance, à l'espérance et à l'amour débordant de compassion pour tous ceux qui sont affligés, souffrent de l'oppression, meurent, les uns sous les bombes des dictateurs et de leurs complices, les autres à petit feu, dominés par des géants d'une économie et d'une finance qui les écrasent. Voici que maintenant, j'attire tous les hommes à moi, dit Jésus. Vous souffrez peut-être encore, mais n'ayez crainte. J'ai vaincu ce monde de terreur et de malheur. De la promesse dont Jérémie était le porte-parole, nous sommes entrés avec Jean dans ce temps de l'accomplissement, dans ce présent qui est le nôtre. Et souvenons-nous du double sens du mot présent. Ce temps dans lequel nous vivons, qui est le même que celui que Jésus a parcouru, est le temps d'un cadeau, d'un don qui nous est offert pour le mettre à profit. Un profit qui n'est pas un gain égoïste pour notre petite destinée personnelle, mais une occasion à ne pas manquer pour que tous, sans exception, en soient au bénéfice. J'attire maintenant tous les hommes à moi. Pas un ne sera laissé pour compte, abandonné en route. Et si l'Église, cet objet mal identifié aux frontières évanescentes, est entre autres là pour le dire, pour faire mémoire de cette brèche, de cette ouverture de toutes les prisons que Jésus a provoquées, elle est là aussi pour le faire. Et ce faisant, elle rassemble des hommes et des femmes qui, n'offrant plus de résistance à l'appel de la bonne nouvelle, se mette en mouvement pour que tous soient effectivement rassemblés dans un bonheur simple, paisible et juste. Et j'en viens maintenant à ce troisième texte tiré de l'Épître aux Hébreux. Les Hébreux, ce peuple incertain, aux contours mal connus, fait de tous les pèlerins qui se battent pour la justice, résistent à l'iniquité, à la cupidité, mais aussi de tous ceux qui attendent une délivrance, un exode libérateur, une terre promise, accueillante et généreuse. Voilà que nous sommes, nous aussi, ces Hébreux d'hier et d'aujourd'hui, qui, comme a voulu l'indiquer l'auteur inconnu de ce texte, se sont mis volontairement sous l'autorité du roi de justice, Melchisédek. Cette autorité n'est pas celle d'un prince cynique ou pragmatique, composant avec toutes les puissances du moment, mais celle d'un serviteur animé par une conviction sereine, inébranlable, irrévocable, la conviction que la justice est le bien qui sans cesse doit être cherché, tant pour résister aux oppressions et à ceux qui les nourrissent, que pour soutenir ceux qui patiemment, avec détermination, avec persévérance, se soulèvent leur croix, ébranlent leur chaîne, désarticulent leur joug pour rester debout, se remettre debout et parcourir inlassablement le chemin de vie qui leur a été offert, une vie qu'ils croient plus forte que la mort, que toutes les morts qui les assiègent. Alors, quant à nous, ici rassemblés ce matin, autour de ces textes et de ce vivant dont nous allons bientôt célébrer la présence par cette sainte scène déjà préparée, nous joignant ainsi à cette cohorte innombrable, à cette multitude disparate, il nous reste à dire et à redire sans cesse que ce combat des justes n'est pas vain et qu'il est d'ailleurs déjà gagné d'avance. Ainsi, nous pouvons le mener sans haine, sans ressentiment, mais avec courage, car il est inscrit, nous le savons, comme une loi intime dans nos cœurs et nos consciences. Il n'est pas le combat des uns contre les autres, il est le combat pour que tous soient rassemblés dans un monde juste et apaisé. Certes, il y aura des souffrances à affronter, il y aura des conversions à accepter, à susciter, à provoquer aussi. Pour les uns, cela sera un aboutissement. Pour d'autres, ce sera plus douloureux. Vous connaissez la parole du poète, la vie, c'est comme une dent, ça fait mal quand il faut vous l'arracher, la vie. Le poète faisait allusion à la douleur de la mort. Pour ma part, dans un renversement total, j'y vois au contraire la peur dont il faut nous dégager, la peur de la vie. Vous vous souvenez déjà, le peuple hébreu renaclé devant la vie libre, celle de l'Exode et de la terre promise. Il préférait la soupe distribuée à compte-gouttes pour une survie frileuse dans cette Égypte d'esclavage. Eh bien, il en est de même pour certains et pour nous-mêmes parfois. Pour accéder à la vie, il faut vaincre parfois de nombreuses résistances. L'une après l'autre, il faut arracher ces petites morts éphémères et sécurisantes qui nous tentent, nous paralysent, dans la peur, la nostalgie, les plaisirs sans lendemain, les petits privilèges ou les pouvoirs mystifiants. La vie libre est un long chemin. Or, cette vie nous est offerte à chaque instant. Elle ne se mérite pas. Elle est là, toujours prête à surgir au cœur même de ceux qui en sont les plus éloignés, aussi bien victimes que bourreaux. J'évoquais au début de cette prédication ces jubilés que nous célébrons cette année 2018, ces personnages et ces événements qui ont marqué notre histoire récente. C'est le peuple hébreu qui a inventé ces jubilés, où tous les 50 ans on remettait à plat tous les enfermements, toutes les injustices, tous les ensevelissements que l'histoire avait provoqués, ternissant et voilant son espérance vivante. Ainsi, on affranchissait les esclaves, on remettait les dettes, on rétablissait chacun dans sa dignité de fils de la promesse. Alors, dans ce temps de jubilé, résonne pour nous aujourd'hui avec force cette phrase du Deutéronome que je m'autorise à compléter. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la vie juste et libre à laquelle tu es appelé, la mort que tu préfères parfois parce que l'appel te fait peur. Alors, choisis la vie. Amen. Thank you.